2. La rencontre entre Maître d'Herville et le vieil homme. Vers 1 heure du matin, l'homme qui dit s'appeler Chabert frappe à la porte de Maître d'Herville. Maître d'Herville est un jeune avoué déjà célèbre. Boucard est en train de ranger les dossiers pour le lendemain. Il salue le colonel et lui dit de s'asseoir.
« Monsieur, dit le vieil homme, hier, vous m'avez dit de venir à 1 heure du matin. J'ai cru que vous plaisantiez. »
Les clercs plaisantent, mais ils disent aussi la vérité. « Monsieur d'Herville préfère travailler à cette heure-là. C'est plus calme. Il réfléchit bien. Quand il a travaillé 4 ou 5 heures sur les affaires, il m'appelle et me dit ce qu'il pense faire. Le matin, de 10 heures à 2 heures de l'après-midi, il voit ses clients, puis va à ses rendez-vous. Le soir, il sort et rencontre du monde. Il doit travailler la nuit et il veut tout gagner. Mais il n'accepte pas toutes les affaires et il gagne beaucoup d'argent. Voilà sa vie. » Le vieillard se tait. Il a l'air bête. Peu après, d'Herville entre. Il porte un costume de bal. Le jeune avoué semble étonné. Qui est cet étrange inconnu qui ne bouge pas? Le vieux soldat est maigre. Son front est caché sous une perruque. On aperçoit une tache claire sur ses yeux. Il est pâle et il a l'air mort. Il porte une horrible cravate de soie noire. Les bords de son chapeau dessinent une ligne noire sur son visage. Avec la ligne, on voit bien ses rides et la blancheur de son visage. Il ne bouge pas et a l'air fou, idiot. Un bon avoué comme d'Herville voit qu'il souffre. Un médecin, un écrivain et un homme de loi comprennent qu'il a vécu des choses horribles. Quand il voit l'avoué, l'inconnu sursaute, enlève son chapeau et se lève. Sa perruque est collée au chapeau et on aperçoit une horrible cicatrice qui va du crâne à l'œil droit. Boucard et d'Herville ne rient pas. « Si ce n'est pas le colonel Chabert, pense Boucard, c'est un sacré soldat. » « Monsieur, lui dit d'Herville, qui êtes-vous ? » ?»«
Le colonel Chabert. »«
Lequel ? » ?»«
Le colonel, mort à Hélo, répond le vieillard. »
Le clerc et l'avoué se regardent et pensent « c'est un fou ».«
Monsieur, dit le colonel, je voudrais vous parler seul à seul. »
D'Herville fait un signe à Boucard qui sort. « Monsieur, dit l'avoué, je n'ai pas beaucoup de temps. Résumez votre affaire. Si je ne comprends pas, je vous demanderai des explications. » D'Herville fait asseoir le vieil homme, puis s'assoit à son bureau. Il écoute, mais il lit ses dossiers en même temps.
« Monsieur, je commandais un régiment de cavaliers à Hélo. J'ai aidé Murat. Nous revenions vers l'empereur. » Je rencontre alors 2 officiers russes, 2 géants. L'un d'eux me frappe à la tête. Je tombe de cheval, Murat et ses hommes foncent sur les Russes et me passent sur le corps. On annonce ma mort à l'empereur, qui demande de vérifier. Il m'aime, lui. Mais personne ne vérifie et on dit que je suis mort. On l'a aussi écrit dans un livre.
Le client parle bien. Il est clair. Le jeune avoué laisse ses dossiers, met son coude gauche sur la table, sa tête dans la main, et regarde le colonel. « Monsieur, je suis l'avoué de la comtesse Ferraud, veuve du colonel Chabert. Vous le savez ?»«
Ma femme, oui, monsieur. Je viens vous voir parce que les gens de loi ne m'écoutent pas. Ils pensent que je suis fou. Je vais vous raconter la suite de l'histoire. » Je dois sembler mort car on enlève mes vêtements et on me jette dans une fosse avec les soldats morts. Mon cheval, blessé, s'est couché sur moi. Je l'ai compris après. Il m'a protégé. Un ancien soldat dont je vous parlerai me l'a dit. Voilà pourquoi Murat et ses hommes ne m'ont pas tué. Quand je me réveille, je suis sous terre. Je respire mal. Je ne peux pas bouger et je ne vois rien. Je crois entendre les morts gémir. Certaines nuits, je les entends encore. Je comprends que si je reste là, je vais mourir. Alors, je bouge les mains. Je trouve un bras et avec ce bras, je creuse un chemin jusqu'au sol. Le sol est froid et plein de neige. Je comprends que ma tête est ouverte. Je m'évanouis. Quand je me réveille, je crie. Une femme courageuse finit par venir voir. Elle va chercher son mari et m'emmène dans leur pauvre maison. J'y suis resté 6 mois. J'étais entre la vie et la mort. Puis, il m'emmène à l'hôpital d'Elsberg. 6 mois plus tard, je me rappelle un matin que je suis le colonel Chabert. Quand je le dis, mes camarades de chambre rient. Seul le chirurgien qui me soigne me croit. Il fait écrire dans des documents officiels mon histoire. Après, je vais chez un notaire déclarer mon identité. Hélas, je n'ai pas ces documents. Puis, je quitte la ville à cause de la guerre. Je marche et je demande de quoi manger. Je n'ai pas d'argent. Quand je raconte mon histoire, on dit que je suis fou. Souvent, je reste plusieurs mois dans une ville car j'ai très mal. On me soigne. Mais on rit quand je dis qui je suis. Ces rires me rendent fou. Et on m'enferme à Stuttgart pendant 2 ans. 2 ans plus tard, j'arrête de dire que je suis le colonel Chabert. Triste, usé, je veux sortir de prison et revoir la France. Ah, monsieur, revoir Paris. Le colonel Chabert se tait. Il est dans ses rêves. Derville attend. Un jour de printemps, continue le client, on me donne 10 pièces et on me laisse sortir. Les gens sont contents car je ne dis plus que je suis le colonel Chabert. Et je parle d'autre chose. Parfois, je voudrais ne pas être moi. J'aimerais ne pas me souvenir de qui je suis. Je serais peut-être soldat en Autriche ou en Russie aujourd'hui. Monsieur, dit l'avoué, je crois rêver quand je vous écoute. Arrêtons-nous un moment. Vous êtes, dit le colonel, le seul à m'avoir écouté. Les autres hommes de loi n'ont pas voulu me prêter de l'argent. J'ai besoin d'argent, car je dois faire venir d'Allemagne les documents officiels pour mon procès.
Quel procès ? Dit l'avoué.
Mais monsieur, la comtesse Ferro est ma femme. Elle a de l'argent qui m'appartient et ne veut rien me donner. Quand je parle procès à des avoués, ils refusent de m'aider. Beaucoup croient que je suis fou. J'ai vécu sous terre. Aujourd'hui, je suis vivant. Mais on veut me faire rentrer sous terre.
Continuez, s'il vous plaît, dit l'avoué.
S'il vous plaît, s'écrie le malheureux vieillard. C'est le premier mot gentil que j'entends depuis.
Il prend la main du jeune homme et pleure. Il ne peut plus parler. Derville est ému. Il croit le vieil homme.
Monsieur, dit-il à son client, j'ai gagné 300 francs au jeu ce soir. Je peux utiliser la moitié pour faire le bonheur d'un homme. Je vais faire venir les documents et je vous donnerai 100 sous par jour.
Continuez.
L'homme ne bouge pas. Il ne croit pas à ce qui lui arrive. Pour lui, c'est un miracle. Jusqu'ici, tout le monde l'a chassé. Sa femme, les hommes de loi. Et aujourd'hui, on lui donne de l'argent. Il revit. Il est ému, mais ne peut pas parler.
Derville comprend.
De quoi je parlais ? Dit le colonel.
Vous quittiez Stuttgart, répond l'avoué.
Vous connaissez ma femme ?
Demande le colonel.
Oui. Comment est-elle ?
Toujours très belle.
Le vieillard fait un signe de main. Monsieur, dit-il. C'est parce que je suis laid que j'ai tous ces problèmes. Bref, revenons à mon histoire. Quand je sors de prison, je rencontre un camarade. Il s'appelle Boutin. Je vous en ai déjà parlé. C'est un soldat. Je lui ai sauvé la vie. Quand je lui dis qui je suis, il rit. Je suis triste. Il ne me reconnaît pas parce que j'ai beaucoup changé. Alors, je lui raconte quelque chose qui nous est arrivé. Alors il m'écoute et je lui raconte mon histoire. Il me croit et me reconnaît. Il raconte ses aventures. Il me dit que nous avons perdu la guerre contre les Russes et que Napoléon n'est plus empereur. Cette nouvelle me fait très mal. À nous deux, nous avons presque fait le tour du monde. Et maintenant, je demande à Boutin d'aller à Paris. Il dira à ma femme que je suis vivant. Il accepte. J'écris à Madame Chabert une lettre. C'était la quatrième, monsieur. Je n'ai pas de parents, vous savez. Je suis un enfant trouvé qui est devenu soldat. Ma richesse, c'est mon courage. Ma famille, c'est le monde. Mon pays, c'est la France. Et mon sauveur, c'est Dieu. Je me trompe. J'avais un père, l'empereur. Il m'appelait mon Chabert. Mais il n'est plus là. Il est parti. C'est peut-être à cause de cela que ma femme n'a pas répondu à mes lettres. Boutin part. Je ne peux pas partir avec lui car j'ai trop mal. Je pleure quand nous nous séparons. Je me remets à marcher. À Karlsruhe, je tombe malade. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est trop long. Je n'ai pas de nouvelles de Boutin. Je ne reçois pas de lettres et pas d'argent de lui. Alors, je pense qu'il est mort. C'est vrai, j'apprendrai plus tard qu'il est mort à la bataille de Waterloo. Quand j'entre dans Paris, les soldats russes y entrent aussi. Voir les Russes en France me rend très triste. J'oublie que je n'ai pas d'argent, pas de chaussures et que mes vêtements sont déchirés. J'ai pris froid la veille dans les bois. Fatigué, je tombe par terre, faubourg Saint-Martin. Quand je me réveille, je suis dans un lit à l'hôpital L'Hôtel Dieu. Je vais y rester un mois, assez heureux. Mais on me dit de partir. Je vais bien, mais je n'ai pas d'argent. Je vais rue du Mont-Blanc, où ma femme doit vivre dans un hôtel à moi. Mais la rue du Mont-Blanc est devenue la rue de la Chaussée-d'Antin. Mon hôtel n'existe plus. On l'a vendu et démoli. Il y a plusieurs maisons dans mon ancien jardin. Je ne comprends pas. Je vais chez un vieil avocat qui s'occupait de mes affaires. Le bonhomme est mort. Un jeune homme le remplace. Il m'apprend le remariage de ma femme avec un comte et la naissance de ses deux enfants. Quand je dis que je suis le colonel Chabert, il rit. Alors je pars. Je ne veux pas qu'on m'enferme avec les fous. Plein d'espoir, je vais chez ma femme. « Eh bien, » dit le colonel énervé, « on ne m'a pas ouvert quand j'ai donné un faux nom et on ne m'a pas ouvert quand j'ai donné mon vrai nom. Je suis resté des nuits entières devant la porte de ma femme. Je voyais un instant rentrer chez elle cette femme qui est ma femme, mais qui n'est plus à moi. Depuis ce jour, je veux me venger !» crie le vieillard qui se lève. « Ma femme sait que je suis vivant. Je lui ai écrit deux lettres de Paris. Elle ne m'aime plus. Moi, je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste. Elle me doit sa fortune, son bonheur. Et elle ne veut pas m'aider. Que vais-je devenir ?»
Le vieux soldat retombe sur sa chaise. Il ne bouge plus. Derville se tait. Il regarde son client.
« L'affaire est grave, » dit-il. « Le procès va aller devant trois tribunaux. Il faut réfléchir. »«
Oh !» répond le colonel avec fierté. « Si je perds, je saurai perdre. Mais je ne perdrai pas seul. »
Le vieillard a disparu. L'homme est redevenu le courageux colonel Chabert.
« Vous devrez peut-être accepter certaines choses, » dit l'avoué.
« Accepter certaines choses, » répète le colonel Chabert.
« Suis-je mort ou vivant ?»«
Monsieur, » dit l'avoué, « j'espère que vous ferez ce que je vous dirai. Votre affaire sera mon affaire. Elle m'intéresse beaucoup. Vous le verrez. Je vais vous donner une lettre pour mon notaire. Il vous donnera 50 francs tous les 10 jours. Je lui prêterai l'argent. Vous êtes riche. Vous me rembourserez. »
Ému, le vieillard pleure. Derville se lève, il sort et revient avec une lettre qu'il donne à Chabert. Chabert la prend et sent 2 pièces d'or dedans. « Donnez-moi le nom de la ville où je peux demander les documents officiels, » dit l'avoué. Le colonel lui répond, puis il prend son chapeau d'une main,
regarde Derville, lui tend l'autre main et dit « Monsieur, après l'empereur, vous êtes l'homme à qui je dois le plus. Vous êtes un brave. »
L'avoué tape dans la main du colonel et le ramène jusqu'à l'escalier. Puis il revient dans l'étude et dit à Boucard « Boucard, je viens d'entendre une drôle d'histoire. Elle me coûtera peut-être de l'argent, mais si je perds de l'argent, ce n'est pas grave, car cela voudra dire que cet homme est un très bon comédien. »
Dehors, le colonel retire de la lettre les deux pièces d'or et les regarde. « Je vais pouvoir fumer des cigares, » se dit-il.